At the conclusion of Elder
à la
Hale's
fin du discours de Frère Hales, le chœur interprétera « Brillante étoile, étoile du matin ». Il sera dirigé par Don Kisson, accompagné par Amy Carus de Alorg. Ensuite, Corshaw Jude fera la prière de clôture. J'ai maintenant l'honneur de présenter l'orateur de ce soir. Robert D. Hales a été soutenu comme membre du Collège des douze apôtres de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours en avril 1974. Avant cela, il a été évêque président de l'Église, assistant du Collège des douze apôtres et membre du premier Collège des 70. Il a été représentant régional, président de la mission de Londres, Angleterre, conseiller dans une présidence de pieux, évêque et membre de grand conseil. Il est né et a été élevé à New York. Il a passé la plupart de ses étés en Utah, chez des membres de sa famille. Après ses études secondaires à Long Island, New York, il a obtenu une licence à l'Université d'Utah. Il a été pilote de chasse dans l'armée de l'air des États-Unis. Il a obtenu une maîtrise de gestion de Harvard et avant son appel à servir à plein temps pour l'Église, il a été cadre supérieur de plusieurs entreprises internationales et nationales. Sa femme et lui ont deux fils, 9 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants. Frère Hales.
Quelle joie d'être avec vous pour vous rendre mon témoignage de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. Comme vous, je suis reconnaissant des principes de l'Évangile qui nous donne une perspective éternelle et nous enseigne comment avoir de la joie dans cette vie et dans celle à venir. Après ma mise à part dans le temple de Salt Lake City, comme assistant des douze apôtres, le grand Richards, qui avait 46 ans de plus que moi, m'a pris dans ses bras et m'a chuté à l'oreille. Si seulement vous êtes à nouveau un jeune garçon, avoir toute la vie devant moi. Être à nouveau un jeune garçon, j'avais 42 ans. Ce soir, je vous parlais comme si vous étiez encore un jeune homme. Être à nouveau un jeune garçon, j'avais 42 ans. Et mes frères et sœurs, quand je vous regarde dans les yeux, je vois la jeunesse de Sion. Vous êtes une armée royale, dotée d'un noble héritage. Vous êtes des exemples vivants pour les générations à venir. Comme le dit le cantique, vas-tu faiblir aux jeunesses? Non. Fidèles et loyaux, toujours nous resterons. Ce soir, je vais vous parler de la façon dont nous pouvons toujours rester fidèles et loyaux. Je suggère que nous ne serons pas capables de rester bien ancrés dans la foi si nous ne recherchons pas ni atteignons les sommets spirituels dans notre vie et si nous n'y dormons pas. Que sont les sommets? Il est intéressant de constater que les prophètes de toutes les dispensations ont recherché l'inspiration au sommet des montagnes. Par exemple, Moïse a vu Dieu face à face sur une très haute montagne. Néphi monta sur la montagne et éleva la voix vers le Seigneur. Le frère de Jared a vu le Christ prémortel, expérience profondément sacrée, sur le mont Cherelem. Ésaïe et Michée, prophètes de l'Ancien Testament, ont annoncé que dans les derniers jours, la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Notre Sauveur est aussi souvent allé dans les montagnes pour être guidé spirituellement et pour instruire ses disciples. Le Christ a été transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean, à l'écart sur une haute montagne. L'un de ses plus grands discours, les Béatitudes, fait partie du grand sermon sur la montagne. En une autre occasion, il est monté sur une montagne surplombant la mer de Galilée. Et donc, quand la foule s'est approchée, il a béni et guéri tous les affligés, tous les malades. À partir de tels sommets, les prophètes de jadis et le Seigneur lui-même ont reçu direction et pouvoir pour garder les commandements et servir les autres. Rechercher les sommets spirituels consiste à s'élever au-dessus du monde et de ses tentations et à suivre notre Sauveur. Ce soir, je vais vous relater une histoire des Écritures qui démontre l'importance de s'efforcer d'atteindre les sommets et d'y rester. L'importance des sommets se voit dans l'histoire de Léontie. Dans le livre de Mormon, il nous enseigne une leçon importante concernant la recherche des sommets et le fait de s'y maintenir. Léontie a emmené ses disciples en un lieu élevé, sur le sommet d'une montagne. Il a construit une forteresse pour assurer leur sauvegarde, leur sécurité et leur protection. Le roi Lamanite a envoyé son armée, dirigée par les Sidon Néphites à Malikia, pour vaincre Léontie et son peuple. Mais Amalikia était un homme très subtil pour faire le mal. Et il voulait obtenir la faveur des armées des Lamanites afin de pouvoir détrôner le roi et prendre possession du royaume. Par trois fois, Amalikia a envoyé un message à Léontie, lui demandant de descendre le rencontrer dans la vallée. Par trois fois, Léontie a refusé de quitter la sécurité du sommet. Mais Amalikia a été persévérant. La quatrième fois, Amalikia s'est approché du camp de Léontie et lui a dit en substance, « Sors de ta forteresse et amène tes gardes avec toi. Je t'y rencontrerai. » Cette fois, Léontie a accepté l'invitation d'Amalikia et il a quitté la sécurité du sommet de la montagne. Alors, Amalikia a présenté son plan à Assidieu, tentant Léontie en lui assurant victoire et pouvoir. Léontie a été invité à faire descendre ses hommes de la montagne et a encerclé l'armée lamanite pendant son sommeil. Amalikia a promis qu'il se livrerait à Léontie, lui donnant le commandement de toute l'armée lamanite. Si Léontie faisait de lui Amalikia son second. Le plan est exécuté comme Amalikia l'avait présenté. L'armée lamanite s'est rendue et Léontie en est devenu le chef. Mais ensuite, Amalikia a demandé à ses serviteurs d'empoisonner lentement Léontie. À la mort de Léontie, Amalikia a pris commandement de l'armée et du même coup, le contrôle du peuple de Léontie est ainsi retourné victorieux vers le roi des Lamanites. Ensuite, Amalikia a réalisé son plan funeste en tuant le roi, en devenant le chef des Lamanites. Considérons cela dans l'optique de notre vie. La traîtrise d'Amalikia nous montre bien comment Satan agit dans notre vie. Ces tentations sont des invitations incessantes à quitter nos sommets et la sécurité spirituelle. Et très patiemment, il attend que nous cédions à ses séductions, à ses tentations. Léontie n'a pas répondu la première fois qu'un messager est venu de la part d'Amalikia, ni la seconde, ni même la troisième fois. Mais lors de la quatrième visite, Léontie est descendu juste en dessous de la sécurité du sommet, succombant en fausses promesses de pouvoir et de gloire. Bien sûr, la fin de Léontie n'a pas été immédiate. Peut-être que pendant quelques jours, il s'est glorifié de son statut de commandant-en-chef de l'armée lamanite. Et peut-être a-t-il pensé que cela valait la peine d'avoir quitté la forteresse du haut des montagnes. Mais comme la perfidie d'Amalikia, les séductions de l'adversaire sont toujours éphémères et empoisonnées. Quand nous quittons les sommets, nous succombons à la maladie spirituelle. Pourquoi rester sur les sommets? Voyez-vous combien il est important de rester sur les sommets? De même que le Sauveur a appelé ses disciples à aller à lui sur une montagne afin qu'il puisse les ordonner au pouvoir de la prêtrise, De même, il nous invite tous, nous, ses disciples d'aujourd'hui, à aller à lui aujourd'hui. Ceux qui acceptent cette invitation recevront des bénédictions qui n'existent nulle part ailleurs. Dans cette vie, nous serons constamment mis à l'épreuve pour voir si nous respectons les commandements de Dieu. Mais toutes les épreuves de cette période probatoire sont destinées à nous rendre plus forts, non pas à nous abaisser et à nous infliger la défaite. Le Seigneur enseigne à Joseph Smith, le prophète, « Toutes ces choses te donneront de l'expérience et seront pour ton bien-être et pour ton bien. Tes afflictions ne seront que pour un peu de temps. Et alors, si tu supportes bien, Dieu t'exaltera en haut. Parfois, nous oublions qui nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu, et nous nous efforçons d'atteindre l'exaltation. Nous voulons vivre éternellement sur les plus hauts sommets, en présence de Dieu le Père et de son Fils, Jésus-Christ. Mais parfois, comme Léontie, nous nous mettons dans une situation compromettante en choisissant de descendre juste un peu la sécurité qu'apporte l'observance des commandements. Alors nous devenons vulnérables à Satan et aux séductions du monde. Il est important que nous restions ensemble au sommet. Gardez à l'esprit que Léontie n'a pas été le seul à souffrir des conséquences de ses choix. Très souvent, vous et moi pensons que lorsque nous transigeons avec nos principes, cela ne peut faire de mal qu'à nous. Mais en réalité, le sort de tant de personnes dépend de notre obéissance, de notre dignité, de notre fidélité et de notre chasteté. Pensez-y, il y a nos amis, nos parents, nos frères et sœurs, et plus important encore, notre conjoint éternel et nos enfants. Même si vous n'êtes pas encore marié, votre conjoint et vos enfants futurs sont intéressés à votre bien-être spirituel. Les choix que vous faites maintenant peuvent déterminer si, oui ou non, vous serez digne d'eux à l'avenir. Je veux dire un instant que certains d'entre vous n'ont pas se marier. Je vous dis que le plus important, c'est que vous restiez sur les sommets et que vous soyez dignes, car il nous est dit que beaucoup de bénédictions seront accordées dans les bénédictions dans les éternités à venir qui vous sont accordées. Ne soyez découragés. Le plus important, c'est de rester fidèle et loyaux et digne. Quand Léontie est sorti de la forteresse et a succombé à la tentation, tout son peuple a souffert. Amalika les a ramenés en captivité, et beaucoup ont été tués dans les batailles qui ont suivi. En tant que disciples convertis du Sauveur, nous avons la responsabilité de fortifier les personnes qui nous entourent. Nous atteignons les sommets non seulement pour échapper à l'adversaire, mais aussi afin de pouvoir hisser d'autres personnes en lieu sûr. Les bons amis nous aident à rester au sommet. Les bons amis nous fortifient et nous aident à respecter les commandements quand nous sommes en leur compagnie. De vrais amis ne nous demanderont pas de choisir entre les voies du Seigneur et leurs voies. Si vos amis actuels vous détournent du sentier étroit et resserré, veulent vous faire descendre des hauts sommets, ne laissez pas les moqueries des personnes qui ont choisi le grand et spacieux édifice vous faire honte au point de vous faire quitter la sécurité spirituelle. Choisissez vos amis avec soin. Quand j'étais petit garçon, ma mère m'emmenait à un étang. Elle était une grande instructrice. Et nous donnions du pain aux cygnes. Elle me disait, « Vois-tu des vautours ou des oiseaux de proie parmi ces beaux cygnes paisibles ?» Il n'y a que des cygnes, parce que les oiseaux d'une même espèce vivent ensemble. Le message était simple. Vos amis refléteront le genre de personne que vous êtes et que vous aurez du plaisir à fréquenter. C'est parmi vos amis que vous choisirez finalement votre conjoint éternel. Et ce sont vos amis qui vous aident à rester fidèles et loyaux sur le chemin étroit et resserré. En même temps, nous devons nous demander, quel genre d'ami suis-je ? Soyez un bon exemple, soyez une lumière pour le monde. Dirigez et guidez les personnes qui vous entourent sur le chemin de la justice. Ils ont besoin que vous les éleviez et les fortifiez. Pour rester sur les sommets, il faut du désir et de la foi. Alors, comment atteignons-nous les sommets ? Y restons-nous ? Tout d'abord, nous devons désirer être fidèles aux enseignements, aux commandements et aux alliances de l'Évangile, et toujours nous efforcer de l'être. Nous devons rechercher les bénédictions qui apportent cette obéissance. Nous y parvenons en cultivant une atmosphère dans laquelle l'Esprit peut toujours demeurer avec nous. Une fois sur les sommets, nous y restons en obéissant aux commandements, en étudiant et en priant, en vivant les principes de prévoyance et d'autonomie, en nous préparant à recevoir les ordonnances du Temple, et en les honorant, en édifiant un mariage, une famille solide. Pour atteindre les sommets, nous devons tout d'abord avoir le désir d'être dans le royaume de Dieu et au-dessus des choses du monde. La foi est l'élément principal de ce désir. Les Écritures expliquent que la foi n'est pas une connaissance parfaite. Mais même si nous ne pouvons pas faire plus que d'y croire, nous pouvons développer notre foi en faisant l'expérience de la parole. En d'autres termes, à mesure que nous respectons les commandements, notre foi grandit. La foi au Seigneur Jésus-Christ est le premier principe de l'Évangile et la pierre angulaire de notre salut éternel. En faisant preuve de foi en notre Sauveur et en appliquant ses enseignements à notre vie, nous serons fortifiés et nous ne craindrons pas le monde ni ne suivrons ses séductions. L'exhortation du Seigneur à lui faire confiance est claire. Tournez-vous vers moi dans chacune de vos pensées. Ne doutez pas, ne craignez pas. Nous pouvons ressembler à Joseph Smith, dont le service envers le Seigneur a commencé par la foi simple d'un jeune garçon en un verset d'Écriture. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qui la demande à Dieu ? La première vision a répondu à la prière sincère de Joseph. Et à partir de ce moment, il a suivi les instructions du Seigneur. Comme Joseph, nous grandirons fidèlement au service de l'Évangile. Nous ressemblerons davantage à notre Sauveur dans nos actions, en prenant soin, en donnant et en témoignant, en nous appuyant sur la direction du Saint-Esprit, dans tout ce que nous faisons. Avoir l'Esprit avec nous est le plus important. Le fait d'exercer notre foi, tout en nous reposant sur l'Esprit, nous aide à atteindre les sommets. Lors de notre baptême, nous avons reçu le don du Saint-Esprit. De même que le Sauveur a promis à ses anciens apôtres qu'il leur laisserait un consolateur, et nous l'avons reçu par l'imposition des mains. Je m'émerveille que bien que les apôtres aient finalement été tués pour leur foi, chacun d'eux, excepté Judas, soit resté fidèle au Sauveur jusqu'à la fin. Le Saint-Esprit nous guidera aussi et nous donnera le courage et la force de rester au sommet. Grâce à l'influence du Saint-Esprit, nous pouvons recevoir la révélation en réponse à nos prières, conserver un témoignage fort du Sauveur tout au long de notre vie, endurer jusqu'à la fin et atteindre la vie éternelle. Aucun d'entre nous n'est à l'abri des tentations de l'adversaire. Nous avons tous besoin que le Saint-Esprit nous fortifie. C'est ici une épreuve. Nous avons besoin de tout le renfort du Saint-Esprit. Comme il est important que pendant les temps difficiles, nous sommes mis à l'épreuve, nous ne fassions rien pour perdre le réconfort, la paix et la direction du Saint-Esprit. La compagnie de l'Esprit nous donnera la force de résister au mal, et si nécessaire, de nous repentir, et de retourner au sentier étroit et resserré qui mène au salut éternel. Je crois que nous ne pouvons pas nous éloigner beaucoup des sommets si nous avons toujours l'Esprit avec nous. Chaque jour de sabbat, nous avons l'occasion de renouveler notre alliance du baptême en prenant part à la Sainte Cène. Ce faisant, nous promettons au Seigneur que nous sommes disposés à prendre son nom sur nous, à toujours nous souvenir de lui et à garder ses commandements. Si nous sommes disposés à faire cela, nous recevons la grande promesse d'avoir toujours son esprit avec nous. Dans le livre de Mormon, le roi Benjamin explique pourquoi il est si important que nous prenions sur nous le nom du Sauveur. Il n'y a aucun autre nom donné par lequel le salut vienne. C'est pourquoi je voudrais que vous preniez sur vous le nom du Christ. Vous tous qui avez conclu avec Dieu l'alliance d'être obéissant jusqu'à la fin de votre vie. Il arrivera que quiconque fait cela se trouvera à la droite de Dieu, car il connaîtra le nom par lequel il est appelé, car il sera appelé par le nom du Christ. En nous efforçant de prendre sur nous le nom du Christ, de devenir chrétien, nous nous mettons, lui et son œuvre, en premier dans notre vie. Nous nous sanctifions et nous efforçons de lui ressembler, en cherchant sa volonté et en servant fidèlement les autres. En suivant de cette façon, les incitations du Saint-Esprit, nous atteignons les sommets spirituels. Les sommets de sécurité. Mais pour cela, il faut de l'obéissance. L'obéissance au enseignement du Christ nous maintient au sommet. Comme le psalmiste l'a écrit, « Qui pourra monter la montagne de l'Éternel ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Nous gardons nos mains innocentes et nos cœurs purs en obéissant. » Dans la vie prémortelle, le libre arbitre, la faculté de choisir nous a été accordée. Nous conservons ce libre arbitre dans cette vie en étant obéissants. Cette obéissance nous a affranchis de l'esclavage de Satan. Si nous sommes fidèles et obéissants, il ne peut ni nous dominer, ni nous contrôler. Mais il faut nous souvenir que si nous avons l'Esprit avec nous, nous avons la lumière. Et Satan, le prince des ténèbres, ne peut pas supporter les ténèbres, la lumière. C'est pourquoi, avec cette lumière, nous pouvons lui dire de partir. Et il doit partir. Mais, comme dans l'histoire de Léontie à Malikia, dans les Écritures, les tentations de l'adversaire sont extrêmement astucieuses. Il nous incite à choisir une défaillance de jugement momentanée pour descendre du sommet. Ce faisant, nous pouvons perdre toutes les bénédictions qui nous sont réservées, si nous sommes fidèles. Je veux tellement que vous compreniez que vous ne voudriez pas passer votre vie à regretter de mauvaises décisions ou des désobéissances. Je me souviens des paroles de Whittier, de tous les tristes mots prononcés ou écrits. Les plus tristes de tous sont « Il aurait pu en être autrement ». Je le répète, de tous les tristes mots prononcés ou écrits, les plus tristes de tous sont « Il aurait pu en être autrement ». Il n'y a rien de plus triste que passer sa vie accablé par les décisions du passé. Il faut vous souvenir que le repentir, le quatrième élément du repentir, est de se pardonner, d'abandonner ses regrets. Et le Seigneur ne nous rappellera pas nos péchés. Souvenez-vous qu'il n'y a rien que vous ayez fait qui puisse vous empêcher de l'oublier et d'aller de l'avant. Mais si ce moment de faiblesse devait se produire, s'il vous plaît, comprenez que grâce à l'expiation de notre Sauveur Jésus-Christ et au repentir, nous pouvons revenir à notre Père et à son Fils avec honneur. Même si nous ressentons déjà les conséquences du poison du mal, il y a un antidote. Nous pouvons retrouver la pleine santé et le total bonheur spirituel. La miséricorde peut satisfaire aux exigences de la justice. Si nous nous repentons et revenons au Père dans nos prières et par notre conduite, le repentir, l'obéissance au commandement, la fidélité et le respect de nos alliances nous permettront d'être à nouveau dignes des bénédictions éternelles. S'il vous plaît, étudiez et priez. Un autre moyen important de nous maintenir au sommet consiste à étudier et à prier profondément. Nous pouvons apprendre tant de choses de ce qu'a fait notre Sauveur quand Lucifer l'a tenté. Il a prié son Père Céleste de lui donner de la force. Il a dit, « Retire-toi, Satan. » Il faut maintenant que vous compreniez que du fait que vous êtes un corps mortel, du fait que vous prenez des décisions, vous avez pris la décision de venir dans ce monde pour vivre une expérience de la mortalité, Satan, lui, n'aura, et ses disciples n'auront jamais de corps mortel. Et si vous lui ordonnez de se retirer, il devra se retirer. Une fois que vous aurez compris cela, vous comprendrez ce que cela signifie être enfant de Dieu. Que serait-il arrivé si l'on avait prié pour être guidé comme Jésus l'a fait? S'il l'avait fait, je pense qu'il n'aurait pas succombé à la demande d'Amalikia de quitter la sécurité du sommet de la montagne. Je suis certain que l'Esprit aurait averti Léonti des dangers que son peuple et lui encouraient. Je suis reconnaissant pour les Écritures, parce que je peux apprendre des personnes qui ont été des exemples de fidélité et de courage. Et je peux éviter les erreurs de ceux qui n'ont pas été. Ces exemples de fidélité et de courage peuvent nous guider. Je suis reconnaissant de pouvoir chercher à être guidé par la prière et suivre les incitations de l'Esprit. Je suis aussi reconnaissant de l'occasion que nous avons, chacun d'entre nous, d'apprendre grâce à l'étude et l'observation d'autres personnes, particulièrement des membres de notre famille. Ma mère a une grande influence sur moi. Je n'aurais jamais rien fait qui aurait pu lui briser le cœur et la faire souffrir. J'ai aussi aimé mon père. Papa ne m'a jamais fait de sermon. Il montrait discrètement le bon exemple et dirigeait par la douceur et la persuasion. Et en nous montrant avec gentillesse ce qu'il attendait de nous, étant le plus jeune de ma famille, j'ai aussi appris de mon frère et de ma sœur aînée. Et je me disais, je ne veux pas faire cela. Je ne veux pas faire comme eux, mais la personne... Donc si vous pouvez apprendre des Écritures de ceux qui sont autour de vous, vous n'avez pas besoin de faire des expériences mauvaises vous-même. La personne qui a exercé sur ma plus grande influence est mon épouse pour l'éternité. La décision la plus importante que nous puissions prendre dans la vie est le choix d'un conjoint. Et je suis extrêmement reconnaissant à ma bien-aimée de l'exemple qu'elle est depuis plus de 50 ans, en nous guidant tendrement, nos enfants et moi, le long du sentier étroit et resserré, la voie de l'Évangile. En plus de la foi, du don du Saint-Esprit, de l'étude de la prière, le Seigneur nous a donné des principes importants pour notre bien-être temporel et spirituel, afin que nous puissions rester au sommet. Le magasin du Seigneur est à la fois spirituel et temporel. Par la foi, l'obéissance au commandement, nous édifions un réservoir spirituel de force pour faire face aux difficultés de la vie. De même, il faut constamment le remplir comme la manne. Les Hébreux devaient chercher la manne tous les jours afin de rester fidèles. C'est comme ça qu'il en est du pouvoir spirituel. De même, nous devrions suivre des sages principes de prévoyance et d'autonomie afin de nous constituer des ressources temporelles pour se venir à nos besoins et servir les autres. Être prévoyant signifie ne pas convoiter les choses de ce monde. Cela signifie utiliser les ressources de la terre avec sagesse et ne pas gaspiller, même en période d'abondance. La prévoyance signifie éviter les dettes excessives et se contenter d'avoir ce qui suffit à nos besoins. Par exemple, un aspect de la prévoyance consiste à faire des études ou à acquérir une formation professionnelle pour nous préparer à un emploi qui nous permettra de subvenir à nos besoins et à ceux de notre famille. Et c'est ce que beaucoup d'entre vous êtes en train de faire. Alors nous devons donner une journée complète de travail pour une journée entière de salaire. Cette éthique de travail, associée à l'intégrité, à la force de caractère et à la loyauté, qualifie chacun de nous comme ouvrier méritant son salaire. Un autre élément de la prévoyance est l'aptitude à vivre avec joie selon ses moyens, en évitant les dettes excessives. Je veux tellement que vous compreniez cela maintenant, à votre âge. Évitez les dettes excessives, ne pas convoiter les choses temporelles de ce monde. Il semble y avoir un sentiment égoïste dans la culture actuelle qui voudrait que nous acquérions tout de suite tout ce que nos parents ont mis des années à acquérir. Les jeunes couples veulent avoir, dès le premier jour de leur mariage, tout ce que leurs parents avaient. Les dettes peuvent nous asservir. Comme nous en endettons excessivement, nous abandonnons notre précieux libre arbitre et nous nous imposons nous-mêmes l'esclavage, dépensant tout notre temps, toute notre énergie et tous nos moyens à rembourser nos dettes. Un sentiment croissant de désespoir produit par ces situations engendre le stress qui nous déprime mentalement, ce qui affecte l'image que nous avons de nous-mêmes, nos relations avec notre conjoint et finalement nos relations spirituelles avec le Seigneur. Il est essentiel que nous comprenions la nécessité d'établir un plan de dépenses et d'économie, un budget, comme on dit dans le monde, et que nous fassions la différence entre les désirs et les besoins. J'ai souvent ressenti que vivre ensemble ne signifie pas simplement entendre les trois mots « chérie, je t'aime », mais aussi les six mots tendres « nous ne pouvons pas nous l'offrir ». Lorsqu'un couple prend des décisions financières, les conjoints doivent en discuter ensemble. Si la femme ou le mari fait une grosse dépense sans en avoir discuté avec son conjoint et sans que les deux aient soumis leur décision au Seigneur en prière, cela entraîne de la tension dans le mariage. Et les tensions financières sont la première cause de divorce. Cela est bien entendu l'immoralité aussi. Si les couples ne sont pas unis dans les choses temporelles et financières, je peux vous assurer qu'ils ne vont pas être unis dans les choses spirituelles. L'autonomie consiste à assumer la responsabilité de notre bien-être temporel et spirituel, ainsi que celui des personnes que notre Père Céleste nous a confiées. Lorsque nous sommes autonomes, nous pouvons mieux imiter le Sauveur en servant, en bénissant les autres. Notre aptitude à servir s'accroît ou diminue en fonction de notre niveau d'autonomie. La raison de votre succès dans la vie ne sera pas pour vous faire plaisir à vous, mais afin de vous permettre d'aider les autres et de faire du bien autour de soi. Ces principes d'entraide sont des directives pratiques qui nous enseignent un mode de vie prudent, qui nous apportera le bonheur au quotidien et nous préparera à affronter et à supporter les difficultés et les situations d'urgence dans les épreuves de la vie. Ayant appliqué ces principes d'entraide dans notre vie personnelle, nous sommes alors capables de rester au sommet et de tendre la main aux personnes qui ont besoin d'aide. Nous pouvons également leur apprendre comment à vivre de manière à être autonomes eux-mêmes. Mais ces principes sont tout aussi importants pour un individu que pour une famille. Si vous n'êtes pas encore marié, commencez à les mettre en pratique vous-même, afin que le moment venu, vous ayez déjà pris de saines habitudes. Cette autodiscipline sera une grande bénédiction pour votre famille future. Le paiement de la dîme et des offrandes de jeûne est un élément important de l'établissement d'un mode de vie prévoyant. Le paiement de la dîme et des offrandes développe la justice personnelle et renforce la foi qui nous soutiendra à travers les épreuves, les tribulations, les chagrins de notre voyage de la vie. Cela contribue à étancher notre soif égoïste et temporelle des choses de ce monde et tourne nos pensées et nos actes vers des objectifs éternels, et le désir d'aider les gens dans le besoin. Si nous sommes disposés à donner notre dîme et nos offrandes, nous serons bénis, et nous éprouverons un grand changement de cœur, nous détournant de la mentalité du monde consistant à prendre et à posséder, pour nous tourner vers l'attitude chrétienne consistant à aimer, partager et donner. Si nous nous préparons en suivant les principes d'entraide, non seulement ne les craindrons-nous pas pour nous-mêmes, mais nous serons aussi capables de surmonter l'adversité que nous rencontrons et d'aider les personnes qui connaissent le besoin. C'est là la grande bénédiction qu'engendre la prévoyance et l'autonomie. J'espère que vous l'apprendrez tous et le pratiquerez dans votre vie. Je vais maintenant parler du temple pendant quelques temps. Une bénédiction supplémentaire à la prévoyance est qu'elle nous accorde le temps et la paix de l'esprit nécessaire pour nous concentrer sur d'autres aspects importants qu'implique se maintenir au sommet. Le temple est le plus haut sommet que nous puissions atteindre dans la vie mortelle. Pour nous aujourd'hui, le temple est le sommet de notre montagne. C'est la maison choisie du Seigneur pour que nous y recevions des enseignements sacrés, des alliances, des ordonnances éternelles et communiquions personnellement avec le Seigneur. Le temple est un endroit où nous faisons d'alliance avec le Seigneur. Quand nous gardons ces alliances, c'est comme si nous étions en sa présence. Le temple est un endroit à l'écart du monde, dédié et consacré au Seigneur. C'est un endroit où nous recevons des enseignements concernant la fondation du monde, la raison d'être de la condition mortelle, les conditions requises pour recevoir les bénédictions éternelles. Dans le temple, ce qui est enregistré sur la terre est enregistré dans les cieux. Et ce qui est scellé sur la terre est scellé dans les cieux pour le temps à toute l'éternité. Les alliances éternelles que nous contractons avec le Seigneur dans le temple ne peuvent jamais être brisées, sauf par notre propre désobéissance. Si nous obéissons à ces alliances, à ces ordonnances éternelles, nous sommes prêts à vivre éternellement avec Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ. À jamais. Le temple est aussi un endroit où nous pouvons nous présenter devant le Seigneur en prière et exprimer nos désirs et nos soucis. C'est un endroit sacré où nous pouvons méditer et prier pour recevoir la force de résoudre nos problèmes et des conseils pour diriger notre vie. Quand nous sommes inquiets, que nous avons des décisions cruciales à prendre qui pèsent lourdement sur notre esprit et notre âme, nous pouvons réfléchir à nos soucis au temple et être guidés spirituellement. J'espère que vous en tirez parti dans votre vie personnellement. Les alliances et le culte du temple sont essentiels pour se maintenir au sommet. Si nous n'avons pas encore contracté les alliances sacrées du temple, nous devons décider d'aller au temple pour recevoir la bénédiction promise du Seigneur. Après être allés au temple, nous devons y retourner fidèlement et fréquemment pour adorer Dieu et accomplir les ordonnances sacrées pour d'autres personnes. Beaucoup d'entre vous se préparent à être scellés comme conjoints éternels avec un fils, une fille de joie de notre Père Céleste, fille de choix de notre Père Céleste. Certains d'entre vous ont déjà obtenu cette bénédiction et se préparent à s'acquitter de la responsabilité de parents. Que ces bénédictions se produisent dans cette vie ou dans la suivante, elles seront données à toutes les personnes qui sont fidèles. Si vous êtes né de parents qui ont été scellés au temple, remerciez-les, eux et notre Père Céleste, de cette grande bénédiction qui vous a été donnée. Si ce n'est pas le cas, soyez reconnaissant envers vos parents et toutes les personnes qui ont contribué à ce que vous vous teniez ce sommet que constitue l'Évangile. Engagez-vous à être scellés dans le Temple et à élever vos enfants dans l'Alliance. Les bénédictions du mariage au temple, dont vous jouissez dans cette vie et la suivante, vous béniront votre postérité et vous pendant toute l'éternité. Édifier un mariage, une famille forte, c'est tout ce qui est important. En nous efforçant de respecter nos alliances du temple et d'édifier un mariage et une famille solide, nous nous fortifions avec un bouclier de foi qui nous protégera contre les traits enflammés de l'adversaire. Sachant que les ordonnances et les alliances du temple nous sont nécessaires pour entrer dans le plus haut degré du royaume céleste, je me suis souvent demandé pourquoi quelqu'un qui a contracté les alliances sacrées du temple les briserait. Quelqu'un qui est monté au sommet en redescendrait. Cette infidélité brise le cœur de son conjoint et ses enfants qui désirent être une famille éternelle. Vivre à jamais. Au cours des années, j'ai observé de très nombreux couples dont le mariage est resté fort et dynamique, tandis qu'ils restaient loyaux à leurs alliances du temple. En conclusion, ce soir, je vais vous faire part de ce que j'ai vu que ces couples heureux faisaient. Ces choses, petites en apparence, ont renforcé et fortifié ces familles et eux-mêmes. Premièrement, les conjoints qui édifient des mariages et familles fortes savent qui ils sont. Ils savent qu'ils sont fils et filles de Dieu. Ils se fixent des buts éternels pour vivre à nouveau avec notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ. Ils s'efforcent d'abandonner les voies de l'homme naturel. Deuxièmement, ils connaissent la doctrine de l'Évangile et l'importance des ordonnances et des alliances du Temple. Ils savent qu'il est nécessaire de respecter leurs alliances pour atteindre leurs buts éternels. Troisièmement, ils choisissent d'obtenir les bénédictions éternelles du royaume de Dieu plutôt que les biens temporels ou temporaires du monde. Ils s'efforcent d'atteindre le sommet et ils y restent. Quatrièmement, ces époux se rendent compte que lorsqu'ils sont scellés pour le temps et toute l'éternité, ils ont choisi un conjoint éternel. Ils n'ont plus besoin de chercher ailleurs. Leur temps de fréquentation s'est terminé. Ils sont maintenant dans le mariage. Cinquièmement, ils pensent à leur conjoint avant de penser à soi. Ils grandissent ensemble, pas séparément, en se servant mutuellement, en communiquant avec le Seigneur par la prière. Ils discutent souvent ensemble, ne laissant jamais ainsi de petites choses prendre une importance démesurée. Ils parlent suffisamment tôt des petites blessures, sans avoir peur de s'offenser. De cette façon, ils évitent les grandes explosions d'amertume. Il vaut tellement mieux laisser échapper un peu de vapeur avant que le couvercle de la marmite ne saute. Ces conjoints recherchent le bien l'un de l'autre et évitent l'égoïsme qui étouffe la sensibilité spirituelle. Ils ne se taquinent pas, ne se moquent pas, ni se dénigrent mutuellement devant les autres. Ils savent que de telles paroles et un tel comportement nuisent au potentiel éternel de leur relation. Ils sont disposés à changer leur cœur, à se repentir, à présenter des excuses. Ils demandent pardon s'ils ont blessé l'être qu'ils aiment. Ils travaillent maintenant à améliorer leur relation, sachant qu'ils ne vont pas brusquement devenir meilleurs quand ils mourront. Ils cultivent un esprit attentionné et prévenant et s'aiment toujours l'un l'autre. Ce faisant, ils s'élèvent l'un l'autre vers le sommet et se fortifient mutuellement de la détermination d'y rester. De toujours rester au sommet. En conclusion, mes frères et sœurs, j'espère que vous voyez l'importance de s'efforcer d'atteindre le sommet spirituel et de s'y maintenir et d'aider les autres à l'atteindre aussi. Plein d'espoir, je prie pour que vous compreniez vraiment qui vous êtes et que vous dirigez votre vie de telle façon que l'Esprit soit toujours avec vous. Ainsi, vous atteindrez le sommet spirituel qui vous donnera droit à vous et votre postérité à recevoir toutes les bénédictions éternelles qui sont légitimement vôtres. Que les plus grandes bénédictions du Seigneur vous soient accordées, à vous, les générations montantes. Vous êtes l'armée royale qui vous conduira, à vous, votre famille, vos amis et les personnes que vous servez, vers le sommet. Je témoigne que les personnes qui s'efforcent toute leur vie d'atteindre le sommet et d'y rester auront un jour la bénédiction de pouvoir se tenir sur le plus haut sommet, à la présence de Dieu le Père et de son Fils, notre Sauveur, Jésus-Christ. Je prie pour que nous puissions tous vivre de telle façon que soyons dignes d'obtenir ces bénédictions célestes par notre obéissance à respecter les ordonnances sacrées de l'Évangile. Au nom de Jésus-Christ. Amen.